16h23, on accueille nos deux gros canons du sport, Philippe Quentin et Martin McGuire. Martin est au bout du fil. Salut Martin.
Oui, bonjour à vous.
Donc, défaite contre Chicago et fin de match sous les huées.
Fin de match sous les huées, fin de match presque à huis clos. Parce qu'il restait, ce qui restait dans les gradins, là, c'était les nombreux Québécois, Québécoises qui étaient venus applaudir leurs Blackhawks avec des chandails des Blackhawks. Mais pour le reste, tout le monde avait décidé de quitter avant et je pense que je les comprends très bien. Le match a été rapidement mis hors de portée et il a été mis hors de portée, Patrick et Philippe, à cause du geste de Max Domi. C'est un autre geste irréfléchi qui est survenu en deuxième période, qui a donné un jeu de puissance, tout ce que les Blackhawks avaient besoin, un jeu de puissance pour pouvoir mettre un terme à ce que le Canadien tentait de faire en début de deuxième, c'est-à-dire une poussée, une remontée après le but de Dano. Parfois, je reste un peu perplexe et j'essaie de comprendre comment fonctionne Max Domi, puis j'arrive pas à vous donner une réponse claire. Est-ce que c'est un joueur égoïste? Est-ce que c'est un joueur impulsif qui perd un peu le nord parfois? Je sais pas quelle est la principale raison qu'il mène à faire ces choses-là.
C'est tellement drôle. C'est tellement drôle, Martin, parce qu'après le match, je suis allé dans le vestiaire. Et puis, Max Domi était là, était présent. Il a répondu aux questions des journalistes. Puis là, la première question, c'est, tu sais, comment tu vois la situation? Évidemment, il faisait allusion à cette punition-là, le fait que par la suite, il n'a pas été utilisé pendant le reste de la période. Là, il regarde le journaliste et dit, quelle situation? Alors, quelle situation? OK. Et là, il donne une réponse, mais il a répondu longuement aux questions. Ah oui, je peux pas faire ça. C'est terrible que je fasse ça. C'est la décision du coach. Tu sais, écoute, tu le dis, tu sembles comprendre, tu te caches pas en arrière, mais pourquoi tu le fais quand tu as déjà été prévenu puis tu le sais que ça va nuire à ton équipe? Cette espèce de paradoxe entre le geste, puis après ça, plutôt cool être capable d'expliquer ça dans le vestiaire, j'ai trouvé ça assez particulier.
Moi, ce qui m'énerve profondément avec Max Domi, là, c'est cette espèce de faculté à ce que ça lui coule sur le dos comme l'eau sur un canard. Là, tu sais, il a l'air imperméable à tout ça. Puis moi, ça m'énerve. Écoute, il est directement lié là-dedans. Là. Il est directement impliqué dans la défaite du Canadien. Puis là, ben, avec un peu de désinvolture, avec un peu de dégagement, il s'en va devant les médias. Puis à l'autre bout de la chambre, là, Charlie Lindgren, le pauvre Charlie Lindgren, qui s'arrache le cœur pour donner une victoire aux Canadiens. Puis lui, il se blâme alors qu'il n'y a pas d'affaire à se blâmer pour le premier but qui était la responsabilité de Tomáš Tatar. On demande à Carey Price de répondre aux questions après un match. Puis lui, il apprend sur le menton quand il arrive quelque chose. Puis des fois, c'est pas toujours de sa faute. Il apprend pareil sur le menton. Puis là, il y a notre beau Max qui est là. Puis lui, ben écoute, c'est correct. C'est comme ça. Puis ça sera mieux le lendemain. Moi, savez-vous qui me fait penser, puis je sais pas ce que vous en pensez, là. Moi, il me fait de plus en plus penser à Scott Gomez.
Oh boy! Ah,
c'est pas un compliment, ça, je pense, Martin.
C'est toute une comparaison.
C'est pas un compliment. C'est pas un compliment. Puis, honnêtement, là, il est à la fin d'un contrat. Ça va être un agent libre avec restriction. Le Canadien a encore les droits sur lui, là. Puis, je vais vous le dire vraiment, là, après toute cette saison-là, là, lui, il va falloir y penser sérieusement avant d'y faire une offre de 6-7 ans de contrat. Il va falloir vraiment réfléchir si ça vaut la peine.
Mais, Martin, écoute, permets-moi de rappeler que quand il est arrivé l'année passée, c'était sa première saison.
Ben oui.
Écoute, le fait. Super bonne impression. Il y a eu des mots totalement élogieux sur l'organisation, sur la ville de Montréal, sur l'atmosphère au Centre Bell pendant l'été. Écoute, on voulait l'adopter. Et là, dernière année de contrat, puis il joue comme un... Mon Dieu, il joue comme si c'était un fat cat.
Dites-moi pourquoi, là, parce que moi, j'ai pas la réponse.
Moi non plus, je comprends pas. Mais c'est un beau gâchis.
Dites-moi pourquoi pendant l'été, il a fait un 180 degrés. Autant comme joueur de hockey que comme personne. Parce que l'année passée, il était charmant, là. Il était charmant. Mais là, cette année, là, sur la glace, il performe moins que ce à quoi on s'en attendait. Il place son équipe dans le trouble. puis à l'extérieur de la glace, il est désagréable.
Bon, moi, je vais risquer une hypothèse, Martin, là, à propos de son rendement sur la patinoire uniquement.
Oui.
À propos de son rendement sur la patinoire, j'ai l'impression que ce gars-là, qui n'avait pas comblé les attentes en Arizona, qui avait pris un petit peu plus de temps à se développer que ce qu'on espérait, ce qu'on avait prévu chez les Coyotes de l'Arizona, arrive à Montréal et connaît une saison étourdissante. Et là, tout à coup, il a dû se dire « Hey, je suis vraiment tout un joueur de hockey. »
Je suis arrivé.
Exactement. Je suis arrivé. Et là, j'ai eu 72 points. Regardez-moi bien aller en 2019-2020. Puis là, le contrat, après, il va être important, il va être long, il va être lucratif. Je m'enligne dans cette voie-là. Et là, la saison commence pas comme ça. Des ennuis. Et là, tout à coup, tout est un peu débalancé. Et il essaie de faire... Tu sais, j'ai écouté ses explications. Il dit, j'ai voulu essayer de remettre l'équipe dans le coup. Tu sais, voyons donc. Tu remets pas l'équipe dans le coup en faisant un geste d'indiscipline comme celui-là. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être le genre de gars qui a eu une saison fantastique, mais ça veut pas dire qu'il est capable de réussir 72 points par saison.
Oui, puis je vous rappellerai que le Canadien l'a eu en retour d'Alex Galchenyuk, qui était à ce moment-là un autre énigmatique. Tu sais, c'est rare. Tu sais, des fois, tu complètes une transaction, tu amènes un gars dans un autre environnement, il se fait de nouveaux amis, il se fait accepter dans l'équipe, puis là, oups, ça part. On l'a vu, on l'a vu à Montréal, puis on l'a vu dans d'autres équipes. Mais généralement, quand il y a eu des problèmes assez importants qui forcent l'équipe qui t'a repêché à t'échanger, là, quand on arrive à t'échanger puis à dire oui, on va prendre un autre joueur sur lequel il y a eu des problèmes ailleurs puis ça nous dérange pas trop, c'est là qu'il faut se poser des questions.
Ouais, la théorie du changement d'adresse. Hein? On espère que le changement d'adresse fonctionne. Ça a fonctionné pour le Canadien.
La théorie de « on échange nos problèmes
». Exactement. Martin, tout ça, c'est bien beau, mais le Canadien retourne à l'ouvrage dès ce soir. Un autre match important contre un adversaire direct dans la course aux séries éliminatoires, les Flyers de Philadelphie, qui, contre toute attente, sont allés gagner un gros match à Saint-Louis hier.
Ah oui.
Donc, creusant encore l'écart avec le Canadien.
Oui, et c'est pour ça que c'est vraiment impératif ce soir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait fait le choix de Price ici à Philadelphie et de Lindgren hier contre les Blackhawks, parce que celui de ce soir est vraiment crucial. Là, les deux équipes sont sur le même terrain, deux formations qui auront joué deux en deux, deux formations qui ont voyagé la nuit dernière. Alors, il n'y a pas d'excuse de ce côté-là. On devrait confirmer dans les prochaines minutes, là, on attend Claude Julien pour son point de presse, on devrait confirmer le retour de Joel Armia dans la formation. Ça va donner un sérieux coup de pouce. Là. On peut peut-être commencer tranquillement sur le top 9, mais je vous fais une prédiction que s'il joue ce soir, à la mi-match, il va être rendu dans le top 6.
OK, Martin, ben écoute, on va te reparler en fin d'émission avec Danny Dubé. On te laisse te rendre jusqu'à l'aréna. On te reparle dans quelques minutes. Merci. Philippe, tu voulais revenir sur ce scandale au baseball, le scandale du vol des signaux. Mais avant, explique-nous, c'est quoi le vol de signal?
Ben, le vol de signal, essentiellement, c'est qu'on essaie de deviner ce que le lanceur va lancer au frappeur. Et c'est le receveur qui a une séquence de signaux. Et là, en plaçant une caméra...
Avec ses doigts, là, oui.
Voilà, c'est ça. Et en plaçant une caméra... on est capable de dire ben ça va être une rapide qui s'en vient et là ben on communique de façon électronique le signal ou le lancer qui s'en vient aux coéquipiers qui sont dans l'abri des joueurs qui eux par un stratagème ça peut être un coup de bâton sur une poubelle ou un cri ben on leur dit quel est le lancer qui s'en vient. Ça donne un avantage incroyable aux frappeurs parce que quand tu sais que c'est une balle rapide qui s'en vient, une balle courbe, une balle glissante, t'as la moitié du travail de fait parce que un bon lanceur qu'est-ce qu'il fait, il varie ses lancers, puis il tient toujours le frappeur adverse sur un pied d'alerte. Là.
Et quand tu sais ce qui s'en vient, quand on sait que la balle voyage à 150 km/h, ça te donne un sacré avantage.
Voilà, exactement. Alors donc, le baseball majeur paie encore les conséquences de ce stratagème des Astros de Houston. On le sait, déjà, les Astros ont perdu leur directeur général, Jeff Luhnow, leur gérant, A.J. Hinch. Les deux ont été suspendus pour un an, puis congédiés par les Astros de Houston. Mais un des gars qui a été vraiment ciblé par l'enquête du commissaire, c'est Alex Cora, le gérant des Red Sox de Boston. Et Alex Cora était assistant entraîneur des Astros de Houston à l'époque des faits. Et dans le rapport, quand tu lis le rapport du commissaire, c'est vraiment lui qui était au cœur du stratagème. Donc Alex Cora, lui aussi, il a été... lui, on ne connaît pas encore sa suspension parce qu'il a continué, semble-t-il, de faire la même chose avec sa nouvelle équipe, les Red Sox, en 2018. Et le baseball majeur n'a pas terminé son enquête encore là-dessus. Mais déjà, les Red Sox de Boston lui ont dit bonjour. On veut plus que tu sois là. Donc, on s'est entendu pour qu'il quitte son poste. Et aujourd'hui, ben, c'est le gérant des Mets de New York qui, lui, à l'époque, était un joueur des Astros de Houston, qui a été nommé gérant des Mets au mois de novembre dernier. Il s'appelle Carlos Beltran. Il est le seul joueur dont le nom est mentionné dans le rapport du commissaire parce que lui aussi a pris une part active à ce stratagème-là. Alors, vois-tu la situation? Qu'est-ce que ça voudrait dire s'il reste gérant des Mets? Ça n'a pas de bon sens. Les Astros de Houston, les Red Sox de Boston, ils ont dit, nous, on ne veut pas garder ces gars-là qui sont identifiés dans le rapport. Alors aujourd'hui, sans surprise, les Mets de New York ont annoncé que Carlos Beltran, qui a été embauché en novembre, eh bien, il quitte en janvier. Ça aurait été un très court séjour au poste de gérant.
Bref, la morale de cette histoire, vaut mieux pas tricher, Philippe.
Ouais, exactement. Est-ce que j'ai 15 secondes pour te raconter une histoire quand même assez incroyable? Tu sais, j'ai couvert les Jeux olympiques de Rio et ça a été tout un travail pour les organisateurs de terminer les installations en temps là-bas. Puis après, tout le monde se demandait qu'est-ce qui arriverait avec les installations, est-ce qu'on réussirait à en faire des installations permanentes pour les gens là-bas. Eh bien, on apprend cette semaine qu'un juge de Rio de Janeiro a décidé d'ordonner la fermeture temporaire de toutes les installations olympiques de Rio parce qu'elles sont trop mal entretenues et il considère qu'elles représentent un danger pour la population. Alors, évidemment, le manque de ressources et des installations pour lesquelles on n'a pas vraiment prévu de plan B, c'est-à-dire il arrive quoi? Pas un plan B, mais du suite des choses, il arrive quoi après les Jeux dans une logique de durabilité puis de faire vivre ces installations-là. Alors, tu sais, Sochi, il y a beaucoup d'installations aussi qui n'ont pas donné tout le complexe, notamment d'habitation et tout. Ça a été très dur et je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais dans les années qui ont suivi les Jeux, c'était en bonne partie abandonné. Et là, Rio de Janeiro. Alors, tu vois que pour le mouvement olympique, ben, c'est une autre mauvaise nouvelle.
Je t'enverrai sur Internet, là, il y a des sites qui sont consacrés à ces sites olympiques à travers l'histoire qui ont été abandonnés et rapidement abandonnés dans certains cas. C'est pas exceptionnel ce qui s'est passé.
Non. Mais tu regardes Montréal, hein? Finalement, le stade olympique est encore là. Oui. Il a accueilli du baseball, du football pendant des années. Le biodôme est là. Claude Robillard est un complexe d'entraînement fantastique. Même Bromont pour l'équitation est encore un complexe très utilisé. Alors, curieusement, avec le recul, je sais que ça coûtait cher pour la facture, mais c'est pas ça mon point là. Mais c'est l'utilisation après les Jeux olympiques. Montréal, ça n'a pas été un échec, loin de là.
Très bien, merci Philippe. On te retrouve demain. T'es libéré. 16h35, au retour, Marie-Ève Janvier de l'émission L'amour est dans le prix va être dans la chronique de Catherine Beauchamp. Et un peu après 17h,
on reçoit le bonhomme Carnaval.
Et je serai là.
Il sera avec nous. Tu vas être là, Philippe?
Ben oui, bonhomme.
En tant que fier gars de Québec.